8h51, vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. Mon nom, c'est Yann Marceau. Je t'accompagne jusqu'à 10h en compagnie de Jeff Fortin et de Max Larouche. C'est 13 degrés sur Québec. Ça se réchauffe, les amis. Ça pourrait monter jusqu'à quoi? Un genre de 24 degrés. Puis avec le facteur humidex, on parle d'une température ressentie de 29. Ce soir, partiellement nuageux, minimum de 13. Vous avez des choses à nous dire? Se passe quoi que ce soit sur la route? 418-971-101. Merci d'être nos yeux, nos oreilles.
Laurentienne-Sud, hauteur de la capitale. La voie de gauche qui est bloquée en raison d'un accrochage. Donc, ça cause quelques problèmes. La capitale ouest toujours au ralenti un peu avant Beau-Royal jusqu'à Laurentienne. Capitale est de l'entrée par Henri IV jusqu'à l'approche de Robert Bourassa. Quand même au rouge aussi. Secteur des ponts, ça s'améliore un petit peu par petit peu, mais quand même toujours de l'attente pour l'accès à la porte nord.
Sondage!
Yes, sondage léger, le journal ce matin qui nous apprend que 7 Québécois sur 10 croient que le remaniement ministériel de François Legault de la semaine passée ne donnera pas de nouvel élan au gouvernement. En parallèle, un sondage Somme le Soleil établit un constat qui est encore plus percutant dans la région de Québec en particulier. 84 % des répondants qui ne croient pas à un effet de relance. 83 % des gens dans la région de Québec sont insatisfaits du travail du gouvernement Legault. Et à l'échelle du Québec, selon le sondage léger, ça va très bien pour le Parti québécois qui gagne 3 points pour atteindre 38 % des intentions de vote.
On en parle avec le député de la circonscription de Jean Talon pour le Parti québécois, Pascal Paradis. Comment allez-vous, M. Paradis?
Bonjour, ça va bien, vous?
Oui, ça va bien. Merci d'être avec nous ce matin. Là, je vois le PQ qui est seul sur l'autoroute, qu'il n'y a plus personne dans les rétroviseurs. Comment vous allez faire pour garder le rythme?
Bien, justement, la réponse est on va garder le rythme. On ne fait pas de la politique en fonction des sondages. À chaque fois, on nous demande de commenter, puis les sondages, ça varie, ça peut monter, ça peut descendre. Je pense que ce que les Québécois nous disent, c'est qu'ils apprécient justement le fait qu'on fait de la politique en fonction de nos convictions, qu'on parle avec intelligence à la population et qu'ils n'ont pas le sentiment que c'est ce que fait le gouvernement actuel. Alors nous, on va continuer de faire ça. On ne tient rien pour acquis. On est content de voir que les gens ont l'air de nous donner une tape dans le dos en disant « on aime votre travail ». Et c'est le Parti québécois qu'on voit comme alternative au gouvernement. Donc, oui, c'est sûr que c'est une belle tape dans le dos, mais nous, on va continuer à travailler fort. Là, il y a une rentrée parlementaire qu'on attend, qui a été retardée de 2 semaines. On a hâte d'être au travail à l'Assemblée nationale, mais je peux vous dire qu'on travaille très fort actuellement sur le terrain.
Les prochaines élections, M. Paradis, ça va se jouer sur quels enjeux? Là, je vois beaucoup, la souveraineté, j'imagine que vous allez challenger là-dessus, pas pire. Puis on va vous challenger aussi sur la laïcité de l'État. Parce que je regardais les chiffres, pour 2050, il va y avoir plus de personnes musulmanes que de personnes catholiques chrétiennes là, au Québec, là, de ce que je comprends. Là, dans les rues de Montréal, à certains endroits, il y a des prières de rue qui déplaisent à certains Montréalais. Les gens de cette île ont beau détester qu'on fasse des prières dans les rues. C'est bien rare qu'ils voient des gens faire des prières dans les rues. Avez-vous l'impression que vraiment, on va mettre l'accent sur ces fameuses prières de rue puis l'interdiction?
Ces questions-là vont faire partie d'un ensemble de questions qui vont se poser aux Québécoises et aux Québécois. Puis quelle vision on veut pour le Québec de demain? Et nous, le Parti québécois, ce qu'on s'efforce à faire tous les jours, c'est d'arriver avec des propositions rigoureuses où on parle aux experts, après avoir parlé aux experts, aux intervenants sur le terrain, les personnes concernées. On parle aussi beaucoup aux gens avec qui, de prime abord, on n'est peut-être pas d'accord. Et ça, les gens, on les appelle. « Ah ouais, vous nous appelez pour discuter ». C'est ce qui fait qu'après ça, on arrive avec des positions, je pense, qui sont bien cadrées avec ce que les Québécoises et les Québécois veulent. Ça va être la même chose en laïcité. Vous savez, en laïcité, nous, actuellement, on a décidé qu'on consultait nos membres. On va leur demander, bien, vous en pensez quoi de ces questions-là, parce qu'elles sont très importantes. Donc, on veut tâter le pouls des membres. Et ce qu'on a vu cette semaine, c'est qu'il y a eu un sondage aussi qui a été publié, puis qui semble dire que les Québécois ont des préoccupations en matière de laïcité et qu'ils voient leur État comme un État laïque. Donc, ça va faire partie des questions. Il y a celle-là, mais je vous dirais qu'il y en aura beaucoup d'autres aussi.
Parce que pour ce qui est
des transports, les services publics, là, c'est une vision de l'État. Là. Qu'est-ce qu'on veut pour le Québec de demain?
Ouais, pour ce qui est des religions, moi, je ne suis pas allergique aux religions. Tout le monde a le droit de croire en ce qu'ils veulent. Moi, à mes yeux, à moi, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent à l'intérieur de leur maison tant qu'il n'y a rien de criminel. Même affaire pour ce qui est des mosquées ou encore des églises. Ils peuvent prier à ces endroits-là. Mais j'ai l'impression que c'est plus une problématique montréalaise. Il y a beaucoup de confrontations actuellement à Montréal. Ça ne touche pas le reste du Québec. Est-ce qu'on pourrait laisser aux villes le soin de décider si les prières commentaires de rue sont acceptables ou non, puis à quel endroit c'est acceptable ou pas?
Il y a une partie de la question qui en est une d'occupation de l'espace, et vous avez raison. Donc là, ça concerne en quelque sorte les villes et les municipalités. Mais les villes et les municipalités demandent aussi de dire, ben, est-ce qu'il y a une orientation générale? Parce qu'il y a une question de sécurité publique et il y a une question aussi de laïcité de l'espace public et de laïcité des institutions étatiques. Donc ici, oui, il y a un aspect municipal. Pour résumer, oui, il y a un aspect municipal, mais il y a un aspect national aussi où on a besoin d'indications pour dire, ben, est-ce qu'on peut utiliser l'espace public? Est-ce qu'on peut bloquer des rues? Est-ce qu'on peut s'approprier des parcs pour des manifestations comme celles qu'on voit surtout à Montréal? C'est vrai, là, actuellement, c'est un enjeu qui est surtout montréalais, mais il y a une vision, encore une fois, de l'espace public puis de l'État. Est-ce qu'on a besoin de renforcer les outils dont dispose l'État pour affirmer le caractère laïque? Parce que c'est important, ça fait partie de nos valeurs. Vous avez raison, on dit la religion est très respectée, chacun peut pratiquer chez lui, chacun peut vivre sa religion de manière personnelle comme il le veut, mais lorsqu'on arrive dans qui sont les représentants de l'État, comment ils peuvent se représenter comme représentants de l'État, de un, et deuxièmement, comment on utilise les espaces publics, là, il y a des questions qui se posent et nous, on a décidé qu'on les posait aussi à nos membres pour avoir leur orientation et déterminer encore une fois les meilleures positions dans l'intérêt public des Québécoises et des Québécois.
Monsieur Paradis, je sais que vous ne gouvernez pas et vous n'avez pas votre plan d'action selon les sondages, mais n'empêche qu'à l'heure actuelle, il y a plus de gens qui votent pour le PQ qui voteraient pour un référendum pour la souveraineté du Québec. Est-ce que vous avez peur que ces appuis-là soient volatiles?
Ben, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. D'abord, des sondages, ce sont des sondages, puis nous, on ne gouverne pas en fonction des sondages. Puis on va toujours vous répondre la même chose. Ce qu'on envisage pour le Québec, c'est en fonction de l'intérêt du Québec, l'intérêt des Québécoises et des Québécois. Et pour nous, de poser la question de l'avenir constitutionnel, c'est important, ça urge de le faire parce que ça a un impact sur tout. Sur l'éducation, sur la santé, sur les infrastructures, tous les sujets dont je parlais tout à l'heure. On vient de parler là, cette semaine du budget fédéral. On dépasse 1500 milliards de dollars de dette. On va avoir un déficit qui va être aux alentours de 100 milliards cette année. C'est la carte. Le gouvernement fédéral est avec notre carte de crédit à nous, les Québécois. Il est en train de nous endetter, il est en train d'endetter nos enfants puis les générations futures. Donc, ces questions-là, ils se posent. C'est l'avenir linguistique du Québec, c'est l'avenir culturel du Québec. On a de moins en moins de pouvoir décisionnel. Donc, pour nous, c'est de dire, c'est ça notre conviction. Il faut qu'on se pose la question puis il faut qu'on prenne la bonne décision, c'est-à-dire de maîtriser nous-mêmes tous les leviers de notre destin comme peuple.
Donc, vous allez être prêt à foncer en campagne électorale avec le thème de la souveraineté du Québec dans le premier mandat.
Ben vous, la tradition est respectée. Vous me reposez des questions, alors je vous redonne la même réponse. Les Québécois apprécient, je pense, cette franchise, cette honnêteté, ce courage qu'on a de dire cette question-là, elle est importante. Elle va être posée aux Québécoises, aux Québécois, dans le premier mandat d'un parti québécois comme gouvernement.
Moi, M. Paradis, j'ai pas le droit de le faire, mais je vais le faire pareil avec vous. Je vous gage 1$ que vous allez reculer.
Ben, j'espère que vous tenez pas trop à votre dollar. J'espère que vous l'appelez pas mon précieux, parce que vous risquez de le perdre.
Ouais, peut-être, mais on s'en reparlera. J'ai l'impression qu'on va se rejaser dans les prochains mois, pas pire. Mais j'ai l'impression que vous aurez pas le choix de reculer là-dessus. C'est pas le désir actuel des Québécois. Mais j'ai hâte de voir, par exemple, au niveau économique, comment un Québec souverain pourrait s'en sortir, puis de quelle manière on pourrait y arriver sans exploiter nos ressources naturelles convenablement. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, le pont de Québec, M. Paradis, il appartient à qui, là?
Bien, attendez, si vous me permettez, là, je vais arriver sur le pont de Québec là, dans une minute, mais sur les finances d'un Québec souverain, là, vous souvenez-vous que nous, en 2023, c'était pas longtemps après mon élection, là, on a publié une étude qui a été saluée, d'ailleurs.
Oui, j'ai lu ça.
Par sa force, qui démontre pour la septième fois que non seulement le Québec indépendant serait viable, mais il serait prospère économiquement. Puis ce sont des hypothèses très, très, très conservatrices.
On avait-tu parlé du panier de services extrêmement généreux dont bénéficient les Québécois?
Ben, On envoie 90 milliards par année. À l'époque, je pense qu'on disait 82. Là, c'est rendu 90, près de 90 milliards par année de nos impôts et de nos taxes à Ottawa en échange de pratiquement aucun service. Quand on va avoir rapatrié ça puis qu'on va le gérer nous-mêmes, on va être capable d'avoir un excellent panier de services à la population, de faire encore mieux en matière d'efficacité, puis d'être un pays prospère. Puis ça, même l'Assemblée nationale a voté ça à l'unanimité. Même les libéraux ont voté pour ça. Alors, c'est une question financière, c'est une question budgétaire, c'est aussi une question de vision, de projet de société. Les jeunes nous le disent, ils veulent plus être pognés dans un carcan de 1867. Ils ont le goût de construire un pays à l'image du Québec.
On aura l'occasion d'en reparler puis de vous challenger à ce moment-là sur les chiffres puis vos façons de faire qui feraient en sorte que le Québec pourrait être prospère à long terme. Juste vous parler du pont de Québec. Il appartient à qui, là, le pont de Québec?
Ben le pont de Québec appartient. Il y a eu une transaction là récemment, donc il a été acheté par le gouvernement fédéral. Nous, on est d'opinion qu'il devrait appartenir au Québec parce que ça fait partie de notre patrimoine. Puis de toute façon, dans un Québec indépendant, ça va être une infrastructure qui va appartenir au Québec. Donc, là, j'imagine que vous arrivez avec une question sur l'entretien.
Ben c'est catastrophique ce qu'on a vu. Je sais pas si vous avez vu l'article dans le Journal de Québec, mais une jeune mère de famille, 40 ans, qui passait sur le pont de Québec dimanche vers les entours entre 13h et 14h. Puis il y a une partie de la structure qui s'est détachée, une partie quand même assez rouillée de cette dite structure-là qui a tombé sur le véhicule de la dame qui roulait à 80-90 km/h. Puis le morceau a explosé sur son pare-brise. C'est réparti en plusieurs petits morceaux. Elle a continué. Elle est arrivée à la hauteur des stationnements de l'aquarium où là, elle a constaté les dégâts plus les morceaux de roche qui restaient sur son véhicule. Elle a fait ce qu'elle avait à faire, c'est-à-dire elle a contacté Québec 511 pour mentionner ce qui venait de se passer. Les porte-parole qui s'occupent actuellement de l'entretien du pont de Québec disent « Bien, on a eu quelques plaintes, mais le pont de Québec est sécuritaire parce que s'il ne l'était pas, on le fermerait. » Mais c'est-tu normal, ça, en 2025, qu'on reçoive une chaudière de roche en passant sur un pont, M. Paradis? C'est comme, ça n'a pas de bon sens, là.
J'ai vu les photos comme vous. Je pense qu'une chaudière de roche, c'est un peu imagé.
Mais c'est ses mots à elle. Moi, je n'étais pas là. C'est pas moi qui tenais le fanal.
On a vu quelques débris. Puis je veux pas, évidemment, on est avec la pauvre dame là, qui a eu ça en passant sur le pont, mais... De fait, la réponse officielle, je suis pas un expert en ingénierie. Par contre, il est régulièrement inspecté, puis les inspecteurs, dans ce cas-ci, ont confirmé une nouvelle fois qu'il était sécuritaire et en bon état. Et là, vous parlez à un, je pense que je peux me qualifier d'un des rares politiciens qui a vraiment lu des rapports sur tout ce qui concerne la mobilité, le transport, puis les ponts à Québec. Là, j'ai passé des nuits à lire ça. Et sur le pont de Québec, ça fait des années que tous les ingénieurs, tous les techniciens nous disent la même chose. Le pont est dans un état, il est sécuritaire, il est solide, puis il est là encore pour des décennies et des décennies si on continue à bien l'entretenir. Donc, là, il ne faut pas que les gens aient peur de traverser le pont de Québec. Selon tous les experts, je ne suis pas un expert, mais ça fait des années qu'ils nous disent la même chose. Il est sécuritaire, il est solide, c'est une structure... qui est là encore pour longtemps.
Monsieur Paradis, j'ai pas. Monsieur Paradis, j'ai
encore,
pas.
Il faut mais laissez-moi juste pour terminer. Allez-y. Là, il faut l'entretenir.
OK.
Puis là, voyez encore. Je vais relier cette question-là à l'autre qu'on a abordé ensemble. Là. Pendant des années, ça a taponné. Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral dormait au gaz dans ce dossier-là. Puis là, le pont, il a été cédé au CN. Oui. Puis après ça, là, il a fallu le racheter. C'est encore une fois, il y a un palier de gouvernement de trop dans cette histoire-là. On aurait pu clarifier cette histoire-là puis régler. De l'histoire de la peinture puis de l'entretien du pont de Québec, parce qu'il faut évidemment viser le meilleur pour cette structure, qui est non seulement une structure essentielle pour la circulation, mais aussi, c'est un élément de patrimoine important.
Mais je comprends que vous avez des propos qui sont responsables à tenir, mais j'ai pas de raison de croire que ce pont-là pourrait s'écrouler à un moment donné, mais on peut pas, tout comme la porte-parole de cet organisme-là, dire que le pont est sécuritaire quand il y a des mères de famille de 40 ans qui passent sur le pont de Québec puis qui reçoivent, selon ses dires, une chaudière de roche directement sur le pare-brise. Ces gens-là roulent à 80-90 km/h
dans un endroit qui est assez restreint. Vous avez déjà passé sur le pont de Québec, il y a trois voies. Donc, quand les trois voies sont ouvertes, les rétroviseurs, on les voit de très près là, arriver en sens contraire. Si jamais il y a quelqu'un qui reçoit ça directement dans la vitre avant, ça se peut qu'il y ait un mauvais réflexe d'un coup de volant qui se donne, puis ça va créer quelque chose. Tu sais, il faut que vous posiez des questions actuellement au ministère des Transports. Ça n'a pas de sens.
Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Puis, je vais faire un lien avec un autre élément. Là, tu sais, on est en train de regarder tout le monde ahuri la commission sur le scandale Saclic, où on a vu un gouvernement complètement irresponsable qui a laissé passer un gaspillage, tout ça, mais qui posait pas de questions. Ben, en fait, même, c'est pas vrai, il y avait l'information, ils l'ont eu, puis ils l'ont pas considéré, mais ils posaient pas de questions, puis là, on voit des fois qu'il faut creuser l'information. Alors, vous avez raison que dans un contexte où on veut questionner la sécurité d'une infrastructure importante, on peut pas juste dire, oui, ça a l'air bien correct. Moi, en tout cas, comme politicien, j'ai fait mes devoirs. Je vous dis, je suis allé lire les documents techniques qui indiquent que c'est une structure sécuritaire qui est régulièrement inspectée. Maintenant, cet incident-là devrait tous nous inciter à continuer à poser la question et à le vérifier.
Un peu, oui.
Mais vous dites, vous avez la réponse irresponsable. Puis je vous la donne pas parce que je dis, faut que je leur donne une réponse aujourd'hui, tu sais, de politicien. C'est pas ça. C'est moi, mon rôle, c'est d'aller consulter les experts, ceux qui connaissent ça, parce que bon, je sais pas si vous, là, autour du micro, là, je suis pas avec vous ce matin, là, mais je sais pas, c'est quoi le niveau de vos connaissances en ingénierie, en infrastructure.
Bon, j'ai aucune de ces connaissances-là, ça, M. Paradis, mais quand je passe l'hiver, puis il y a un épisode de verglas, puis on me ferme le pompier à la porte parce qu'on me dit que c'est dangereux parce qu'il y a de la glace qui peut tomber sur le pare-brise, je me dis, hey, ces gars-là s'occupent de notre sécurité, ces hommes et ces femmes-là s'occupent de notre sécurité. Là, dans le cas du pont de Québec, il y a des parties qui s'écroulent, puis la porte-parole dit, non, mais s'il était pas sécuritaire, on le fermerait. Mais attendez un peu, là, ça ne l'est pas présentement. S'il y a de la roche qui tombe sur les véhicules, ça ne l'est pas sécuritaire. Puis ça devrait, il devrait y avoir dès aujourd'hui des gens qui surveillent la structure pour être sûr que ça n'arrive pas dans les prochaines heures ou les prochains jours, sans quoi ce serait une catastrophe. Ça va être quoi vos sujets privilégiés là, à l'entrée à l'Assemblée nationale prochainement? Là?
Ah, il va en avoir plusieurs.
Sans vous avez de la job pas mal, vous allez dormir tard. Là.
Ben, je vous dirais que moi, j'ai beaucoup d'admiration pour mes collègues du Parti québécois, des gens qui travaillent dur, qui font tout ce qu'ils peuvent pour ce que je disais au tout début, là, t'sais, poser les bonnes questions, parler aux bonnes personnes, puis arriver avec les meilleures propositions, critiquer constructivement, avoir des alternatives. Ce matin, Paul Saint-Pierre Plamondon vient d'émettre un communiqué là, qui indique les nouvelles responsabilités d'Alex Boissonneau et celles des députés du Parti québécois. Donc, dans mon cas, je vais continuer à parler d'énergie parce que n'oubliez pas qu'on s'est fait passer une réforme du secteur de l'énergie par baillon la dernière journée de la dernière session parlementaire.
Oui.
Il y avait tout un paquet d'affaires là-dedans qui n'avait aucun bon sens. Donc, je vais travailler là-dessus. Je vais travailler aussi sur l'efficacité gouvernementale. Le gouvernement vient de dire, ce qu'ils ont dit en 2018, là, on s'en vient avec un programme d'efficacité gouvernementale. Ils n'ont pas tenu promesse. 7 ans plus tard, ils essaient de faire croire qu'ils vont s'en occuper. Moi, ça fait 1 an que je fais le tour du Québec, que j'ai rencontré des dizaines, sinon des centaines d'organismes, d'entreprises pour voir ce qu'on peut faire de mieux pour simplifier la vie du monde au Québec. Enlever de la paperasse puis de la bureaucratie inutile, mais surtout nous rendre plus prospères, plus efficaces. Fait que vous allez m'entendre là-dessus dans les prochains jours avec plein d'autres sujets. Bien sûr, la santé, l'éducation, toujours aussi préoccupant pour les Québécois, les finances publiques. Alors, on va être sur tous les fronts, mais on va être là aussi pour répondre au gouvernement là qui, je pense, essaye de... Ben oui, de nous refaire les promesses de 2018 puis 2022 qui n'ont pas été satisfaites. Puis là, on essaye de nous dire. Puis les gens sont pas dupes, hein. Vous l'avez vu aussi, là, le remaniement ministériel. Ben, je pense que les Québécois ont compris que c'était surtout un exercice de communication. Donc, nous, on va s'assurer qu'on fait pas juste des coms, qu'on a des résultats pour les Québécois.
Parlant de résultats et en terminant, M. Paradis, est-ce que le PQ, s'il prend le pouvoir, va réduire la taille de l'État comme la CAQ le propose?
On s'est déjà prononcé là-dessus que pour nous, maintenir les services, ne laisser personne derrière, être là pour les gens en situation de vulnérabilité, c'est important et qu'il est possible de faire ça en cessant le gaspillage des fonds publics qu'on a vu au cours des 7 dernières années, et en ayant une structure gouvernementale qui est plus efficace, puis ça, ça veut dire que oui, il y a des endroits, ben il va falloir faire des économies.
Donc, il va y avoir des coupures de postes?
Ben, nous, en tout cas, on va regarder. Ben, ce qui s'est passé dans les 7 dernières années, c'est une croissance du nombre de fonctionnaires, c'est une croissance du nombre de structures. On les compte par dizaines, les nouvelles structures qui ont été créées par le gouvernement. L'Agence Santé Québec, par exemple, c'en est une, là. Personne n'a vu de résultats sur le terrain actuellement. Les listes d'attente.
C'est à abolir, ça, Santé Québec?
Donc, ben, nous, on a dit, Santé Québec est sous observation. Donc, c'est sûr que si tu fais une révision de l'État, puis tu veux être plus efficace, ben, tu regardes les postes, qui sont peut-être pas nécessaires pour donner des services à la population. Donc, nous, on va se poser ces questions-là, on l'a déjà indiqué. Des services, garder un État qui est fort pour les gens qui en ont besoin, mais être plus efficace comme gouvernement.
Pascal Paradis, ça a été un plaisir, plaisir de vous revoir en studio dans les prochaines semaines.
Ça va me faire plaisir. À bientôt.
Merci beaucoup. Bonjour. Pascal Paradis, député de la circonscription de Jean Talon du Parti québécois. On a fait une bonne run avec M. Paradis. C'est intéressant. C'est un gars qui est très préparé. C'est un gars qui travaille énormément, ça s'entend. Avocat de formation. Un gars qui travaillait pour Avocats sans frontières.
Oui, exactement.
Puis, je pense
il y en a vu de la misère humaine, lui.
Oui.
Pas à peu près.
Effectivement.
Pas à peu près.
Il est le fun à jaser. Pas obligé d'être d'accord tout le temps, mais il est le fun à jaser.
Il est le fun à jaser. Il y a juste à la fin, là, le PQ dit on va améliorer ma mais on ne dit pas qu'on va couper des postes, on ne dit pas qu'on va abolir Santé Québec. Genre, la campagne électorale va falloir qu'il se positionne sur ces sujets-là.
Exactement. Son organisation va se positionner, effectivement. 418-971-1021, s'il se passe quoi que ce soit sur la route ou encore vous avez de l'information à nous transmettre. Une super de belle journée en ce mercredi, puis c'est ça qui est intéressant. C'est un 15 degrés actuellement. On gagne des Celsius depuis les dernières minutes. Ça pourrait monter jusqu'à 25 degrés. Avec le facteur humidex, ça pourrait être une température ressentie de 29. Demain, jeudi, alternance de soleil et nuages, 30% de probabilité d'averse tard en après-midi et même risque d'orage pour ce qui est de demain. Donc, le topo a changé chez Environnement Canada. Maximum de 24 degrés. Vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 17. Samedi, ensoleillé maximum de 16. Et dimanche, ensoleillé maximum de 21. On fait une courte pause et on vient.